Jusqu'à 11h30 qu'on parle. Ce matin, j'aimerais lire dans l'Évangile selon Luc, d'abord. Chapitre 2. Au verset 40. Il s'agit de l'enfant Jésus, Seigneur Jésus. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Au verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 11, il, le Seigneur, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Encore dans la première épître de Pierre, Pierre, chapitre 2. Au verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Puis un dernier passage dans la seconde épître de Pierre, le dernier verset. De Pierre 3, au verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Ce matin, j'aimerais parler un peu, l'aide du Seigneur, de la croissance spirituelle. Dans les lois de la nature, toute naissance est suivi d'une croissance. C'est triste quand un enfant vient au monde et que sa naissance n'est pas suivie d'une croissance normale. On a déjà été témoin d'un cas semblable, de gens qui ont eu un enfant, puis l'enfant reste bébé, il ne développe pas. Il n'apprend jamais à parler, il n'apprend jamais à marcher, reste un bébé. D'abord, on devrait dire, au départ, c'est important d'être certain qu'on est vraiment né de nouveau, qu'on a eu un départ. On ne peut pas grandir au point de vue spirituel si on n'a pas eu une véritable nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est vraiment un changement initial très important dans la vie d'une personne. Ça change tout, toute la vie d'une personne. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, hein, il est mort dans ses péchés, puis il s'en va à la destruction. Et quand le Seigneur Jésus va revenir nous chercher, hein, il va rester sur cette terre pour les jugements qui s'en viennent. On voit aujourd'hui beaucoup de signes avant-coureurs des terribles jugements qui vont venir sur ce monde. Il y a beaucoup de signes aujourd'hui qu'on n'a pas connus dans les générations passées. Ça fait longtemps que les chrétiens attendent le Seigneur, mais plus ça va, plus c'est évident qu'on arrive vraiment à la fin de la patience de Dieu envers ce monde. Quand quelqu'un est sauvé, c'est un changement total de vie et de destinée. Au lieu de s'en aller à la perdition, on est en route pour un monde meilleur. C'est un changement d'administration. Je me rappelle, quand pas longtemps après qu'on avait acheté notre maison à Sainte-Foy, il y avait pas loin de chez nous une pharmacie. On avait besoin justement de quelque chose, et puis j'ai été à cette pharmacie-là, puis je suis resté surpris. Le pharmacien était tout sale, et vraiment pas d'allure, pas rasé, puis des ongles noirs, tu sais. Puis il y avait un désordre, il y avait du stock par terre, c'était tout mal organisé, épouvantable. Réellement, je suis pas retourné, moi, cette pharmacie-là. Ça me donnait pas confiance. Ça me donnait pas confiance du tout. Un pharmacien qui avait l'air désordre, puis désordonné, quelque chose de rare. Mais quelques mois plus tard, en passant devant, il y avait une pancarte dans la vitrine, nouvelle administration. Ah, mais j'ai dit, moi, je vais aller prendre une chance, je vais y aller voir. Ils avaient complètement refait le magasin. Tout était beau propre, beau blanc, comme on peut s'attendre d'une pharmacie. Il y avait des meubles nouveaux. Tout était bien arrangé, en ordre, propre, pas de poussière. On pouvait pas passer le doigt puis voir de la poussière partout. Et puis, le pharmacien, bien habillé, comme un pharmacien, réellement, un changement total. Nouvelle administration. Ben, c'est un peu comme ça quand quelqu'un est sauvé. Il n'est pas pour se promener avec une pancarte. Nouvelle administration. Mais en fait, c'est ça. Une nouvelle administration. Quand on est sauvé, c'est plus le même maître qui commande. Ça paraît, c'est un fait en dedans. Ça commence en dedans. Mais ça paraît en dehors aussi. Ça paraît en dehors. Alors, c'est le point de départ. Mais dans les passages qu'on a lus, il a été question, dans chacun d'eux, de croissance. Je peux pas vraiment vous expliquer comment le Seigneur Jésus pouvait croître en sagesse, en stature et en grâce, parce que ça me dépasse. C'est vraiment très difficile à se représenter. Un enfant normal, qui est un enfant, mais qui est parfait à tous les stades de son développement. À toutes les étapes, le Seigneur Jésus a été parfait. Un enfant parfait. Quelque chose que je peux pas, que j'ai jamais vu, d'abord. Donc, je peux pas l'expliquer. Ce qui est difficile à comprendre étant, par conséquent, difficile à expliquer. S'expliquer des choses qu'on comprend pas, c'est pas mal dur. On peut pas l'expliquer. Mais la Bible dit, on le croit. Il y a eu une croissance quand même normale dans la personne du Seigneur Jésus. À tous les stades, il était parfait, mais comme un enfant de son âge. Et on peut bien dire que ça illustre vraiment une vie chrétienne normale. Pas parce qu'on est parfait, mais Dieu s'attend pas que quelqu'un qui est sauvé depuis quelques mois soit avec la même maturité que quelqu'un qui est converti depuis longtemps. Néanmoins, un chrétien peut être avec un développement normal, selon le temps qu'il a été converti, mais il doit y avoir une croissance, un développement graduel, mais qui termine jamais, parce que on n'a jamais fini de grandir spirituellement. Et on peut l'expliquer même à des enfants. Un moniteur d'école du dimanche a dit une fois aux enfants, la vie d'un chrétien, c'est comme le cri du corbeau. Croix, croix, croix. Ça commence à la croix, C-R-O-I-X. On commence la vie chrétienne à la croix, où on vient par la foi au pied du Seigneur Jésus pour l'accepter, reconnaître notre culpabilité et l'accepter comme sauveur, à la croix. Deuxièmement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le verbe croire. Et troisièmement, croître. Le verbe, l'impératif du verbe croître. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dit l'apôtre Pierre à la fin de sa deuxième lettre. On l'a lu. Mais croissez, c'est le pluriel, mais au singulier, l'impératif, c'est croît. Croît. Du verbe croître. Grandir. Ainsi, on a ces trois croix, hein. À la croix, c'est O-X. Ensuite, croît, le verbe croire. Et croît, du verbe croître. Où il faut grandir. Notre vie chrétienne doit être une vie en croissance. Une vie où on se développe. On n'a jamais fini d'apprendre. Et même, on a dit déjà, une des raisons de l'instruction, c'est de nous montrer qu'on sait rien. Dans le domaine naturel, mais dans le domaine spirituel aussi, on a beaucoup de choses à apprendre. Puis on a des fois des choses qu'on sait, qu'on a déjà appris, mais qu'on a besoin d'apprendre à mettre en pratique davantage. C'est une loi naturelle de croître, de grandir, dans le domaine physique comme dans le domaine naturel. Mais on ne croit pas d'un moment à l'autre. On ne croit pas tout à coup comme ça. Un petit garçon, le jour de ses 5 ans, il était assis au bord de son lit, puis il balançait les pieds en bas de son lit, puis il se regardait. Sa maman lui dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, c'est ma fête aujourd'hui. Il dit, je regarde si je grandis, parce que j'ai 5 ans. Et oui, il pensait que parce que c'était son anniversaire, que subitement, il allait grandir. Alors, on sait bien que c'est amusant. On grandit pas comme ça tout d'un coup, quoi qu'il y ait des fois des adolescents qui grandissent tellement vite qu'on peut presque les voir grandir. Mais c'est un fait qu'on grandit tranquillement. Et au point de vue spirituel, c'est un peu comme ça. On grandit pas tout à coup d'une manière subite, mais c'est tranquillement. Et sans que ça fasse de bruit. On grandit tranquillement, à travers des épreuves, à travers des difficultés. On a dit qu'on forme pas des soldats seulement dans des manuels d'études. On les forme sur le terrain. Quand c'est pas facile. Et à Sainte-Foy, il y a quelques-uns des chrétiens, ils étaient dans l'armée quand ils ont été sauvés. Peut-être qu'ils n'auraient pas choisi l'armée si ils avaient été sauvés avant, mais ils n'ont pas d'autre travail, ils ont été sauvés, ils sont dans l'armée, à Valcartier, il y a le camp militaire, puis ils sont restés là. Puis actuellement, il y en a plusieurs qui sont dans l'Alberta, dans les exercices, sur le terrain. Puis l'hiver, des fois, ils ont l'opération Les Rouges, quand il fait très 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 froid, ils vont loger sous tente. Alors, ça doit pas être drôle, voyez-vous. C'est sur le terrain, dans les exercices, difficile physiquement, les épreuves, qu'on forme un soldat. Puis c'est la même chose au point de vue spirituel. On grandit pas seulement à travers des lectures de la parole de Dieu. C'est indispensable de lire la parole. Un chrétien doit se nourrir de la parole de Dieu. C'est une nourriture pour l'homme, c'est une arme pour le combat. Mais c'est à travers les épreuves et les difficultés, les tentations, les troubles de cette vie, que Dieu veut nous faire grandir. Alors, il faut pas s'étonner si, dans notre vie, on n'a pas toujours tout ce qu'on voudrait, quand on voudrait, puis comment on voudrait. Il y a toutes sortes de difficultés que Dieu permet dans sa providence pour nous former à son école. On grandit spirituellement à travers des difficultés, à travers des épreuves, des luttes, des combats, des contrariétés et des choses semblables. Donc, nous sommes appelés à grandir. On peut avoir, on a lu donc que même les dons dans l'Épître aux Éphésiens sont donnés pour le perfectionnement des saints, afin que nous croissions à tous égards, voyez-vous. On voit le but des dons dans l'Assemblée, c'est pas que un ou deux fassent tout, comme on le disait hier, puis que les autres regardent, puis soient rien que des spectateurs, comme celui qui disait « j'aime tellement le travail, je ne me tâne pas de regarder ». Ça, c'est pas correct de parler de même, hein. Il faut se relever les manches puis travailler. Donc, on est tous appelés à bénéficier des dons que le Seigneur donne à l'Église, pas en vue que toujours les mêmes fassent tout, mais en vue de nous motiver pour que tous, frères et sœurs, on fasse quelque chose pour la cause du Seigneur. Même prier pour l'Assemblée, si on a plus de temps parce qu'on est moins actif, utile, l'hospitalité, l'accueil, il y a une foule de petites choses qu'on peut faire et qui peuvent contribuer au bien du corps, le corps de Christ. Et on a vu que on doit se nourrir de la parole comme un lait, dans le deuxième chapitre de la première lettre de Pierre, afin que par lui vous croissiez à salut, dans la croître dans la compréhension de ce qu'importe ce salut. Ce salut nous est donné, c'est un don gratuit, on ne peut pas le mériter, mais ça comprend beaucoup de choses dans lesquelles nous devons entrer par la foi. Souvent dans la Bible, on voit cela, que Dieu donne, mais il faut s'en emparer. Comme la terre d'Israël, quand Dieu avait dit qu'il leur donnait ce pays, que Dieu allait combattre pour eux, mais il a dit aussi, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Il fallait s'en emparer. Là, il y a des choses que Dieu nous donne, ça c'est un aspect, mais d'un autre côté, c'est à nous de nous en emparer, de comprendre quelle est la portée de notre héritage, de nos bénédictions, et aussi de travailler pour vraiment en jouir, en entrer dans nos bénédictions d'une façon pratique. Et dans le verset qu'on a lu à la fin du deuxième épître de Pierre aussi, croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Ça, c'est pas seulement intellectuel, mais c'est pratique aussi. La grâce du Seigneur Jésus, la connaissance de sa personne, comme on l'a dit hier, est un exemple. Et il y a des choses dans la vie chrétienne qui sont le produit d'un effet. Si on s'occupe du Seigneur Jésus, si on est occupé des choses de Dieu, inévitablement, ça produit, ça change notre mentalité. Parce que pour agir comme un chrétien, faut penser comme un chrétien. Comment est-ce qu'on va penser comme un chrétien? Ben, c'est par la parole de Dieu. Je peux pas agir comme un chrétien si toutes mes pensées sont portées vers les choses du monde. Donc, voilà une manière de grandir. C'est d'être imprégné, j'oserais presque dire imbibé, des choses de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer notre croissance spirituelle? Bien, une chose, une question qu'on peut se poser, est-ce que j'ai vraiment le désir de mieux connaître le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est pour moi un désir qui est en moi vraiment de mieux le connaître par sa parole et peut-être par de bons livres ou d'une manière pratique? Pas seulement savoir des choses de lui, mais vraiment les connaître intimement. Est-ce que j'obéis à sa parole plus fidèlement aujourd'hui que hier? Parce qu'il y a des choses qu'on sait, mais c'est une autre affaire quand il s'agit de les mettre en pratique. C'est pas toujours facile. Puis souvent, on s'aperçoit que on en sait plus que ce qu'on met en pratique, alors on doit aussi se poser la question, est-ce que j'ai plus le désir aujourd'hui de mettre en pratique sa parole que je l'avais il y a peut-être quelques mois? On doit ambitionner de faire des progrès dans ce domaine-là. Évidemment, en s'approchant du Seigneur, en voulant être plus comme lui, d'une manière automatique, on se sépare de bien des choses du monde. Il y a des choses qui sont très importantes pour le monde, mais pour le chrétien, c'est bien secondaire. Les gens du monde sont très intéressés au sport. Pour eux, c'est capital. Il y a des gens qui achètent le journal puis ils regardent quasiment rien que la section des sports. Pour eux, c'est vital. Il y a bien des choses qui intéressent les gens du monde, des choses qui sont pas nécessairement mal, mais qui captivent les gens du monde. Toutes sortes d'activités qui, évidemment, occupent et préoccupent les gens du monde, mais le chrétien. Il y a bien d'autres choses plus importantes que ça. C'est que la question, c'est pas toujours de voir si quelque chose est mal, mais c'est dans le choix de nos priorités. Dans le choix de nos priorités. C'est là qu'on voit vraiment la valeur d'un chrétien, dans ses priorités. Les gens du monde, pour eux, il y a des choses qui sont primordiales, mais quand on est chrétien, on a bien d'autres choses plus importantes à faire. C'est pas seulement une question de dire, mais c'est pas mal de faire telle chose, c'est pas mal de faire telle autre, c'est pas mal de faire une troisième, etc. Mais quand on est chrétien, on a des priorités qui sont bien différentes que les gens du monde. Les gens du monde ont toutes sortes d'occupations parce que, dans un sens, sont pas intelligents. Toutes leurs choses, tout ce qui les intéresse, c'est très limité. Tandis que quand on est chrétien, comme on disait hier à propos de la vie des disciples, on investit pour l'éternité. On a d'autres intérêts. Et on sait que ça change toute l'optique de voir les choses. C'est bien différent. Alors, grandir, c'est perdre un peu le goût des choses du monde. Un peu comme quelqu'un qui va en voyage, puis il veut pas coucher n'importe où, dans n'importe quel motel, mais quand c'est rien que pour une nuit, c'est pas pareil comme si on achète une maison. Si on achète une maison, c'est pour longtemps. On regarde plus que si c'est juste pour passer une nuit dans un motel. Bien, c'est un peu pareil avec les choses de la terre. Quand je me rappelle que sur cette terre, c'est pas pour tellement longtemps, mais je suis en train de me préparer pour l'éternité. Ça, c'est pour longtemps. C'est beaucoup plus important ce qui est pour longtemps que ce qui est très court, très bref. Mais ça ne veut pas dire que les choses de la terre perdent complètement d'intérêt. Mais dans une mesure, et au fur et à mesure que je m'intéresse et que je m'occupe des choses éternelles, les choses du monde perdent de la valeur et de l'importance. Et c'est une marque de progrès. Vis-à-vis des autres, est-ce que mon amour pour les autres a augmenté? Là aussi, on peut vérifier notre progrès spirituel, notre intérêt pour le bien des autres. Par nature, on est insensible, égoïste. L'égoïsme est une partie de notre nature pécheresse. Tandis que quand on est chrétien, évidemment, notre centre, c'est plus notre personne même, notre ego, ego veut dire moi en latin, c'est plus notre moi, mais c'est vraiment le Seigneur Jésus, le service. Et on ne peut pas avoir un meilleur exemple que le Seigneur Jésus. Il est né pour les autres, il a vécu pour les autres, il est mort pour les autres. Quelle vie de sacrifice! Quelle vie de sacrifice! Naître pour les autres, volontairement, nous, c'est pas notre cas, évidemment. Il a vécu pour les autres, il est mort pour les autres. Évidemment, sa mort pareil, on peut pas imiter sa mort, c'est une mort expiatoire, il est mort pour nos péchés, personne ne peut faire ça. Mais néanmoins, la vie consacrée aux autres. Si tous les chrétiens avaient davantage le désir d'être utiles aux autres, bien, ça changerait bien les choses. Ça changerait bien les choses. C'est vite dit, mais c'est dur à réaliser d'une façon pratique. Vivre pour les autres. On a dit que les gens du monde, en général, c'est moi, toi peut-être, puis finalement Dieu, en dernier, troisième. Mais le chrétien, l'ordre est renversé. C'est d'abord Dieu, ensuite toi, le prochain, et finalement moi. L'ordre est renversé. Et là aussi, c'est de quoi nous parler. L'amour se manifeste évidemment par des actions envers notre prochain. On est donc insensible vis-à-vis de ceux qui sont perdus. Ça arrive des fois que des chrétiens ils nous disent « Ah, tel et tel de ma famille, mon père, ma mère, ou telle personne, priez pour lui à la réunion de prière, priez pour lui, il mourra. » On veut bien prier, mais c'est trop tard. Trop tard. Souvent, quand quelqu'un est mourant, c'est presque trop tard. C'est pas pour dire que Dieu peut pas sauver à la dernière minute. Dans la parole, on voit que Dieu peut sauver à la dernière minute. Le brigand converti qui a été sauvé à la dernière heure, il y en a un pour montrer que c'est possible, mais il n'y en a rien qu'un pour montrer que c'est rare. Alors, prier rien qu'à la dernière minute, c'est trop tard. C'est pendant que les gens sont vivants et qu'ils ont leur faculté de décider. Et on a vu hier, hein, être chrétien, c'est prendre une décision pour le Seigneur. Non, c'est pendant qu'ils sont encore vivants qu'il faut leur annoncer la parole et prier pour eux d'une manière que le Seigneur puisse leur parler à leur conscience. On sait qu'on se sent impuissant, c'est Dieu qui incline les cœurs. Néanmoins, notre amour pour les autres se manifeste à un désir de voir d'autres sauvés parmi ceux qui nous sont proches, parmi les gens autour de nous. On est facilement insensible. On n'a pas la compassion qu'on devrait avoir trop souvent. Et vis-à-vis des chrétiens aussi. L'intérêt qu'on porte aux autres chrétiens dans notre amour fraternel. Alors, on peut mesurer notre amour pour les autres. Et la parole de dire, n'aimons pas en parole seulement, mais en action et en vérité. C'est facile de dire qu'on aime quelqu'un si on ne fait jamais rien pour eux. Bien, le Seigneur veut qu'on ait plus d'amour. Et l'amour, pas toujours envers ceux qui sont aimables. J'ai lu l'histoire une fois d'un certain chrétien qui allait dans une assemblée, puis il n'avait pas tellement un bon caractère, une personne un peu mal commode. Et puis il a déménagé, puis il allait dans une autre assemblée. Enfin, je dis pas ça pour ceux qui sont venus d'une autre assemblée, mais dans ce cas-là, de cette personne-là, il était mal commode, puis il a déménagé dans une autre assemblée. Puis il y a un frère qui faisait partie de la première assemblée où l'autre était. Il a vu un autre chrétien de la nouvelle assemblée où ce que le chrétien allait. Il dit, un tel a déménagé avec vous autres, là. Vous allez avoir de la misère à l'endurer. Ah non, il dit pas ça, il est très apprécié. Parce qu'il nous apprend à être patient. Il est très apprécié. Il nous apprend à être patient. Alors voyez-vous, même ceux qui sont mal commodes ont leur utilité. Ils apprennent aux autres à être patients, mais là, ça veut pas dire qu'il faut faire exprès de jouer le rôle. Néanmoins, on est appelé à être patient, même avec ceux qui, peut-être, ont par malheur un caractère moins aimable, parce que il y a des chrétiens qui ont des sales caractères, comme il y a des inconvertis qui ont un fichu de bon caractère. Ça, c'est un fait, on peut pas... C'est un fait, c'est que... On a un caractère qui est des fois héréditaire, et malgré nous. Il y en a qui ont les coins arrondis, puis il y en a qui ont les coins carrés. Si vous voulez, il y a toutes sortes, il faut tout pour faire un monde. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut certainement, dans toute assemblée, il faut avoir de l'amour et de la grâce les uns vers les autres. Quand on regarde, comme on le disait hier, tout ce que la parole nous dit de faire les uns pour les autres, c'est d'avoir de la patience. Dieu n'est pas un Dieu qui veut que tout le monde soit pareil. On a dit, les poteaux de téléphone sont tous pareils, parce que c'est les hommes qui les ont faits, mais les arbres, il n'y en a pas deux pareils, parce que ça vient de Dieu. Dieu aime l'unité dans la diversité. C'est pour ça que on est tous différents, au point de vue physique, comme au point de vue tempérament. Ici. Dieu aime l'unité et l'harmonie, mais dans la variété. Il n'y a qu'à voir les fleurs des champs, il n'y a qu'à voir les oiseaux quand on va au zoo, il n'y a qu'à voir les poissons. C'est riche la nature. Combien il y a de sortes? Dans la même catégorie, il y a même famille, il y a toutes sortes de variétés. Donc, Dieu veut l'unité et la variété. Ça ne veut pas dire qu'on peut agir n'importe comment dans l'assemblée, ça. Mais chacun a son rôle et un rôle différent et un tempérament différent. Alors une question qu'on peut se poser, est-ce que j'ai un souci pour le bien-être des autres? Ça, c'est une marque d'un chrétien qui grandit. Il pense pas rien qu'à lui dans ses conversations et dans l'intérêt qu'il porte. Il a de l'intérêt, il porte un intérêt pour le bien, pour le bien-être des autres chrétiens. Parce qu'il y a une chose qu'il faut se rappeler, une assemblée peut pas être mieux que sont les individus qui la composent. Ça, c'est très important. On aimerait bien avoir une bonne assemblée, tout va bien, mais ça peut pas être mieux que sont les personnes et les familles qui la composent, cette assemblée-là. Si les gens de l'assemblée ouvrent quasiment pas leur Bible, s'ils font pas de progrès personnel, l'assemblée peut pas progresser. On aurait beau avoir de l'ordre dans les formes, ce qui est correct évidemment, mais il faut que les personnes de l'assemblée individuellement fassent des progrès et soient attachées au Seigneur. Si les chrétiens eux-mêmes sont mondains tout le reste de la semaine, comment est-ce qu'on veut avoir des bonnes réunions? Il faut que les frères soient exercés, il faut que les sœurs aussi aient un cœur exercé, pas avoir une allure comme le monde. Dans le jour où on vit aujourd'hui, c'est important, ça, pour donner le ton à l'assemblée, du sérieux. Il faut que chaque personne de l'assemblée ait à cœur d'avoir affaire avec le Seigneur Jésus, avec Dieu, une marche pieuse, pour que l'assemblée, comme une collectivité, puisse progresser. Au point de vue, évidemment, l'amour pour le prochain, on a dit, l'amour pour les chrétiens, l'amour pour les inconvertis. Alors, est-ce qu'on a le désir que nous tous, nous devenions, comme on l'a vu hier, de vrais disciples? On peut être sauvé, ça prend pas de temps, mais pour être un vrai disciple. La vie est trop courte, même, pour pouvoir faire assez de progrès. Souvent, dans la Bible, on voit des contrastes. D'une part, ça coûte rien du tout pour être sauvé. Ceux qui veulent payer par leurs bonnes œuvres, ils sont exclus d'avant, parce que Dieu veut le donner. Mais d'un autre côté, pour être vraiment un chrétien qui progresse, ça coûte tout. Faut que je donne tout. Souvent dans la Bible, il y a ce genre de paradoxe, où on voit que la vérité, elle est d'une part ici, d'autre part là. Souvent. On voit ça. Ça coûte rien, mais si vraiment je veux suivre le Seigneur, faut que je sois prêt à tout. Même à donner ma vie, s'il voulait. Les deux sont vrais. Donc, on peut mesurer est-ce que je fais des progrès? Est-ce que j'ai plus d'amour pour les inconvertis? Est-ce que j'ai plus de désir d'amener d'autres? Si c'est rien qu'un ou deux qui invitent, c'est dur d'en amener à l'assemblée, mais si tous les chrétiens ont vraiment à cœur d'amener d'autres au Seigneur Jésus, bien, l'assemblée va progresser. Tout le monde peut être un chrétien engagé, avoir le désir d'en amener d'autres. Maintenant, pour mesurer notre progrès, il y a ce qu'on voit donc vis-à-vis de Dieu, notre attachement à sa parole, vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Est-ce que je suis plus sensible au péché dans ma propre vie? Est-ce que le péché nous assaille et convoitise? Il y a toutes sortes de choses. Alors, on peut mesurer aussi, est-ce que vraiment dans ma propre vie, je suis plus sensible au péché? Grandir, c'est être moins sensible à notre propre personne aussi. Comme on l'a dit, il y a des gens, tout ce qui les intéresse, c'est leur propre personne. L'année passée, en Suisse, dans un magasin, c'était pas un magasin, c'était un kiosque à journaux, dans une gare, j'ai vu un livre d'une collection populaire, parler de moi, il n'y a rien que ça qui m'intéresse. C'est le titre du livre. Parler de moi, il n'y a rien que ça qui m'intéresse. Oh ben j'ai dit, c'est vraiment typique de notre société aujourd'hui. Ça. Parler de moi, il n'y a rien que ça que je veux entendre parler. Les autres, ça ne m'intéresse pas. Bien, un chrétien vraiment qui avance, ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas de sa personne, de sa santé. Il y a des choses qui ont leur place. Dieu nous a donné un certain instinct de conservation. On doit prendre soin de nous-mêmes, dans notre corps, même nos habits. C'est des choses qui ont leur place. Néanmoins, on s'intéresse aux autres. Grandir, c'est être moins centré sur nous-mêmes, mais davantage centré sur le Seigneur Jésus, connaître lui et vivre pour lui. Alors voilà quelques idées, quelques points où nous pouvons mesurer notre croissance spirituelle. Et je le répète, on ne peut pas grandir si on n'est pas né de nouveau. C'est le point de départ. Il faut absolument avoir fait l'expérience d'une nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. C'est un point de départ. Il y a bien des chrétiens qui n'ont pas compris ça. Pour eux, ils sont sauvés, là, bon, ils sont en route pour le ciel. Puis, ils pensent qu'ils peuvent faire tout comme ils veulent. Mais non, pas du tout. Si vraiment c'est bien compris, c'est un point de départ. Et à partir de ce point-là, je dois grandir continuellement. Je dois regarder la carte, la parole de Dieu, qui est mon manuel de base, mais aussi à travers les épreuves, à travers les difficultés, les tentations, les problèmes de la vie, je dois me former. La vie est courte, mais elle est importante. Elle est importante parce que c'est pendant notre vie qu'on prépare notre éternité. Alors que le Seigneur nous aide à vraiment être tous et chacun, personnellement, les chrétiens en croissance. On veut que l'Assemblée grandisse, spirituellement et numériquement, mais il faut aussi que les chrétiens, dans leur vie privée, grandissent. Si nous sommes tous des chrétiens en croissance, chacun selon notre degré, on a tous un degré personnel, on a tous des besoins personnels, des circonstances qui nous sont propres, bien, si on grandit, l'Assemblée aussi va grandir. Et ceux qui vont venir de l'extérieur, ils vont s'en apercevoir. Ceux qui vont être sauvés parmi nous, bien, ils vont avoir de l'aide aussi. C'est bon quand tous les chrétiens et chrétiennes peuvent contribuer, tu sais, au bien des nouveaux qui sont sauvés. C'est triste quand quelqu'un est sauvé et qu'il tombe dans une assemblée ou dans un milieu où il n'y a pas d'accueil, il ne se sent pas vraiment entouré. Simplement, des fois, dans les conversations privées, ça aide beaucoup les nouveaux chrétiens. Les gens s'en aperçoivent, tu sais, quand ils tombent dans une assemblée où il y a vraiment des chrétiens qui sont en croissance, qui sont près du Seigneur. Alors que Dieu nous aide à être tous des chrétiens en croissance et que l'Assemblée puisse aussi grandir. On prie pour vous autres à Québec. On pense à vous, ma femme et moi personnellement, et puis l'Assemblée aussi, on prie pour vous. Vous savez, quand on voit la grande ville de Montréal, moi je suis frappé chaque fois que je viens à Québec, il n'y a pas de métro. Quand je viens à Montréal, puis que je prends le métro, puis que je vois ces foules de monde, je me dis, il y a donc des besoins. Il y a donc des besoins, c'est pas incroyable. Alors, il faudrait vraiment un souffle nouveau de l'Esprit de Dieu pour qu'il y ait d'autres qui soient sauvés, puis qu'ils soient vraiment appelés pour travailler. Ce qu'on peut faire, c'est quasiment qu'une goutte d'eau dans la mer, tellement il y a de besoin. Alors on a besoin nous-mêmes d'être réveillés pour être utiles dans la main du Seigneur. Les chrétiens croissants, les chrétiens sensibles à leurs responsabilités. Alors que Dieu bénisse ces quelques réflexions pour notre bien à tous. Ce soir, ben, si le Seigneur le veut, on aura une prédication d'évangile, à moins qu'il y ait de nouveau seulement les chrétiens. Prions. Notre Dieu, nous te rendons grâce de ce que ce matin encore, tu nous as permis de nous réunir autour de la personne du Seigneur Jésus et nous rappeler ce qu'il est pour nous, mais ce qu'il est pour toi aussi, ton Fils bien-aimé, celui qui a fait ton bon plaisir, tes délices ici-bas, celui qui a accompli l'œuvre nécessaire à notre réconciliation, pour ta gloire d'abord et pour notre plus grand bien ensuite. Notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu es un Dieu patient, nous te connaissons comme tel, et nous voulons te demander que tu nous aides à chacun de nous à grandir personnellement, pour que alors, comme assemblée, nous puissions aussi grandir collectivement et en profondeur aussi. Nous te remercions de ce que ta parole nous équipe. Pour cela, tu permets des épreuves, des contrariétés, des difficultés pour notre formation aussi. Et nous voulons te demander que tu nous aides, chacun de nous, pour que notre témoignage puisse être de plus en plus brillant aussi. Fais-nous du bien, bénis ceux qui étaient absents, nous pensons à notre frère M. Davy, te demandant d'encourager, de soutenir, de donner la santé encore, c'est ta bonne volonté. Ainsi que tous ceux qui étaient retenus, bénir tous les rassemblements autour du Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent aussi croître en nombre et en force, pour la gloire de ton nom. Amen.